Je vous rappelle que nous poursuivons notre série d'études sur les grandes figures de l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, nous en associons deux, Charles Spurgeon, ou Spurgeon, si comme vous préférez, et Ruben Sayers. Nous avons prévu d'avoir encore une séance de la série, qui devrait être la dernière, au mois de janvier. Donc il n'y a pas d'institut biblique au mois de décembre, donc au mois de janvier, nous conclurions cette série de nouveau avec deux serviteurs, avec Billy Graham et John Stott. Ensuite, j'attends vos suggestions, soit de nouveau des textes bibliques difficiles que vous souhaiteriez étudier dans notre groupe, soit des doctrines, des points de doctrine particuliers. J'attends vos propositions à partir du mois de février pour donc la série qui suivra celle que nous poursuivons aujourd'hui et que nous achèverons du voulant en janvier. Et je lis un verset pour introduire l'étude d'aujourd'hui. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, je lis le verset 21. « Puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation, ou prédication, si vous préférez traduire ainsi, qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. » Folie aux yeux des sages du monde, mais qui est plus sage que les hommes, souligne l'apôtre dans les versets qui suivent. Associé Spurgeon et Sayers, c'est une chose qui me paraît assez naturelle. Il y a des points communs entre les deux hommes qui sont assez évidents et qui sont remarquables. L'un et l'autre ont attiré les foules et attiré l'attention très tôt dans leur vie par un don de communication orale exceptionnel. Je pense qu'on peut dire que c'est le trait qui a d'abord frappé chez l'un et chez l'autre, un don de parole, et c'est pourquoi, bien sûr, j'ai lu le verset qui évoque le choix qu'a fait Dieu d'utiliser la parole comme moyen de salut. Il l'a fait dans le cas et de Spurgeon et de Sayers pour le salut d'un très grand nombre. Ils ont été caractérisés l'un et l'autre par un don tout à fait exceptionnel. Non seulement ils étaient extrêmement éloquents, mais leur éloquence n'était pas l'éloquence de la chair telle qu'on l'appréciait d'ordinaire. J'ai mis sur mon titre, je pense que je n'ai pas vérifié que ça a bien été reproduit sur le petit papier, mais tribun de l'Évangile. Par le mot de tribun, j'ai voulu suggérer les caractères particuliers de l'éloquence, aussi bien de Spurgeon que de Sayens. Une éloquence très populaire, qui ne s'embarrassait pas des formes traditionnelles. Éloquence extrêmement directe, interpellant les auditoires. Une éloquence aussi caractérisée par une richesse d'images, par un jeu de l'imagination qui était vraiment comme une prolifération surabondante. Donc cela a caractérisé aussi bien Spurgeon que Sayens. Donc un trait déjà remarquable. On peut ajouter que, je l'ai déjà dit, ils ont commencé très très jeunes l'un et l'autre. Avant 20 ans, je vais vous raconter leur histoire, je vais relater la biographie pour l'un et l'autre, mais de nouveau, ce n'est pas du tout habituel et cela caractérise les deux hommes. On peut noter aussi qu'ils ont été l'un et l'autre des baptistes, que l'un et l'autre ne venaient pas d'une famille baptiste, même s'ils venaient l'un et l'autre d'une famille évangélique avec quand même une certaine proximité. Ils sont devenus baptistes de conviction très jeunes, dans l'adolescence, et ensuite en tenue comme telle, et même en face d'offres très généreuses qui leur auraient assuré une gloire plus facile dans le milieu dans lequel ils évoluaient, le milieu religieux dans lequel ils évoluaient à l'époque. Mais l'un et l'autre, parce qu'ils se voulaient baptistes, persuadés que c'était la vérité biblique, que le baptisme avait reconnu sur le baptême, ont tenu bon. Et ça n'a pas été facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a eu des variations, mais en tout cas au début, ce n'était pas donc très facile. Deux baptistes qui ont beaucoup lutté contre le modernisme, le libéralisme, qui ont été très conscients du fait que le message libéral qui met en doute la pleine autorité de la Bible, qui met en doute le message de la substitution pénale, la vérité que Jésus a pris sur lui notre châtiment pour satisfaire entièrement la justice de Dieu à notre place, cette doctrine que les libéraux vomissent, hein, c'est une cible particulière de leurs attaques, c'était vrai de leur temps, et c'est vrai de notre temps, peut-être de nouveau, très fortement, ils ont été l'un et l'autre de très grands prédicateurs de la croix, comme l'acte par lequel Jésus s'est substitué, substitution à nous, sous le châtiment que nous avions mérité. Donc, l'un et l'autre, très vigilants contre ce qu'on appelle le modernisme ou le libéralisme. Et l'un et l'autre, pour cette raison même, ont fait quitter à leur Église l'Union baptiste dans laquelle elles se trouvaient. L'un et l'autre. Parce que des influences modernistes se manifestaient à un certain moment, Spurgeon a quitté l'Union baptiste en Grande-Bretagne, et Saïens était membre de l'église dont il n'était plus le pasteur en titre, mais le pasteur honoraire, il était toujours membre et pasteur honoraire, donc a quitté cette église qui est sortie de l'Union baptiste en 1921. L'un et l'autre ont laissé une école de formation des pasteurs. Leur propre facilité, leur propre formation sur le terrain, car ils ont été pratiquement l'un et l'autre entièrement autodidactes. C'est par leur lecture qu'ils se sont formés, pour l'essentiel. L'un et l'autre ont senti la nécessité de laisser une école. Vous voyez tous ces points de contact très, très remarquables. Ça a été le collège qui a pris le nom de Spurgeon dans la région de Londres, le Spurgeon's College, comme on l'appelle encore aujourd'hui, et où d'ailleurs le successeur de Saïens à la tête de l'Église, Arthur Blocher, a fait ses études. Ruben Saïens a laissé, lui, l'Institut biblique de nos gens qu'il a fondé. Vous voyez tous ces points de contact quand même vraiment très, très, très frappant. On peut ajouter encore qu'ils se sont connus, qu'il y a eu, à certains égards, presque un passage de relais, pas tout à fait. C'est pas comme ça, tout à fait, que ça s'est présenté. Saïens était 21 ans plus jeune que Spurgeon, donc il était une génération d'après, mais il l'a rencontré plusieurs fois, en 1875 déjà, lors d'une rencontre des écoles, il l'a rencontré, d'ailleurs c'est très amusant, parce qu'il le décrit dans une lettre en disant « corpulent qui a du mal à marcher ». Or il n'avait que 41 ans, Spurgeon, à ce moment-là. Mais il l'a beaucoup apprécié, puis ensuite il a été invité par Spurgeon, et il l'a revu encore à Paris quelques semaines avant sa mort. Spurgeon est mort en France. Spurgeon est mort malade à Menton. Il allait, parce qu'il était assez souvent malade, il allait se reposer, se refaire une santé sur la Côte d'Azur. Et en dernier lieu, c'est à la fin donc 1891, Rubens Sayens l'a rencontré sur le quai de la gare, au moment où il changeait de train venu d'Angleterre pour descendre dans le Midi. Donc, c'est dire que Sayens, que certains ont surnommé le Surgeon français, a été en même temps proche de lui. Puis ensuite, il a été dans un lien amical assez fort avec le fils de Spurgeon, qui lui a succédé à la tête de son église, qui a invité Sayens plusieurs fois à prêcher. Donc, vous voyez, il y a eu des liens vraiment très, très remarquables. Donc, il est tout à fait normal, me semble-t-il, que nous les considérions ensemble aujourd'hui. Mais maintenant, je décris chaque trajectoire séparément. D'abord, donc, pour Charles, Haddon, deuxième prénom, Spurgeon, dont je dirais, là c'est un petit clin d'œil que je fais, que son œuvre a été abondante comme l'Amazone. Je choisis l'Amazone simplement parce que c'est un grand fleuve. Hein. J'aurais pu prendre n'importe lequel des très grands fleuves du monde. Il a publié, sans doute, des centaines de milliers, peut-être des millions de pages au long de son ministère. Tous ces sermons qui remplissent des volumes et des volumes et des volumes étaient immédiatement imprimés, immédiatement diffusés dans le monde entier. Et il y en a un, par exemple, qui a été particulièrement fameux sur le baptême et la régénération, où il attaque la doctrine catholique et catholicisante, parce qu'il y a des protestants aussi, de la régénération par le baptême, l'idée que c'est le baptême qui ferait naître de nouveau. Il a fait un sermon là-dessus qui s'est vendu lui seul à 350 000 exemplaires et qui défendait tout à fait la thèse aussi que Sayens a défendu et que, qui fait partie de notre confession de foi. Donc, une production très abondante, et en plus de ça, donc d'autres livres, pas des livres de théologie très pointus, mais par exemple plusieurs volumes sur les psaumes, de prédications et de commentaires sur les psaumes, plusieurs volumes, qu'il a appelé le trésor de David. Et donc, une abondance particulièrement frappante. Je vais avoir une expression imagée pour essayer de contrebalancer celle-là dans le cas de Sayens, mais je vous laisse attendre tout à l'heure pour vous dire laquelle. Donc, abondant comme l'Amazon. Alors, il est né en 1834, dans un village au nord-est de Londres, donc à quelques dizaines de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres, disons, au nord-est de Londres, c'est pas très très loin. Un village, simplement, et dans des conditions de pauvreté familiale, je pense qu'on peut le dire, son père et son grand-père étaient pasteurs, pasteurs d'une église congrégationaliste, n'était pas baptiste, congrégationaliste. Les congrégationalistes reconnaissent la vérité que les baptistes ont reconnue aussi, que chaque église locale, congrégation, est souveraine sous la direction du Saint-Esprit. Qu'il n'y a pas une autorité qui coiffe plusieurs églises et qui puisse imposer à une église donnée quelque chose qu'elle ne croirait pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ça le congrégationalisme, oui, qui s'oppose au système presbytérien synodal, où le synode a l'autorité d'aller contre une église locale, oui, et contre le système de l'épiscopat monarchique, où c'est l'évêque qui détient ce pouvoir. Alors, le père et le grand-père du jeune Charles Spurgeon étaient congrégationalistes, mais il n'avait pas de grosse église, c'était vraiment très très pauvre. Et le jeune Spurgeon a connu les conditions de vie les plus dures. Comme Sayens, c'est aussi un truc que j'aurais pu mentionner dans ce qui les rapproche. L'un et l'autre ont connu la pauvreté dans leur enfance et ont eu un souci très marqué tout au long de leur ministère pour les pauvres, pour les couches populaires défavorisées. Donc ça aussi, ça a compté. Hein. Le jeune Charles Spurgeon se nourrit des livres qu'il trouve dans le grenier de son grand-père. C'est essentiellement cela. Il va lire, 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 et tout emmagasiné dans une mémoire qui, paraît-il, était tout à fait alors exceptionnelle. J'ai lu une fois, pas tout dernièrement, mais alors je n'ai pas vérifié, mais qu'il avait une mémoire photographique qui existe. Vous pouvez prendre un livre, en quelque sorte, le regarder juste un instant, regarder la page, ensuite fermer les yeux et lire la page. Il paraît que ça existe et que Spurgeon en était doué. Bon, je ne l'ai pas vérifié, il y a parfois des exagérations hein, dans ce qu'on raconte des grands hommes, donc il faut se méfier, mais en tout cas il avait une mémoire vraiment tout à fait hors classe. Et il se nourrit là, tout spécialement des auteurs puritains. Et Bunyan, pour commencer, John Bunyan, du Voyage du Pèlerin que nous avons évoqué il y a quelques séances, vous vous rappelez, ça a été vraiment un auteur dont sa jeunesse s'est complètement imprégnée, et les autres auteurs, donc de ce calvinisme tourné vers la sanctification, vers la pratique, qui a été caractéristique de l'Angleterre et de l'Écosse aussi d'ailleurs, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le jeune Spurgeon donc se forme de cette façon. Il se convertit à 16 ans, et là d'une façon que le Seigneur a conduite, il a lui-même l'a raconté beaucoup. Il s'est retrouvé tout jeune, hein, je crois qu'il n'avait pas tout à fait 16 ans, il se retrouvait aide-instituteur à Cambridge, c'était la grande ville assez proche. Et il voulait aller au culte, parce qu'il avait été formé par la piété de sa famille, mais il n'est pas encore vraiment converti. Et il va aller au culte, et c'est une tempête de neige absolument abominable dans les rues de Cambridge, de telle sorte qu'il ne se sent pas le courage d'aller jusqu'à l'église où il allait ordinairement. Et il entre dans une petite chapelle méthodiste, il y avait très peu de monde, où c'était un laïc plutôt bredouillant qui prêchait, qui apportait la prédication. Et ce laïc qui prêchait comme il pouvait, à un moment a souligné « Regardez à Jésus, regardez à Jésus !» qui prêchait sur un texte d'Ésaïe, où il est dit « Regardez à moi, où c'est le Seigneur qui parle. » Et il a même désigné ce jeune homme qu'il ne connaissait pas dans ce petit auditoire en disant « Vous regardez à Jésus, regardez à Jésus. » Et ça l'a terrassé. Et vraiment, le Seigneur l'a saisi par ce moyen. Et lui qui allait être un orateur tellement fameux et attiré d'un temps de milliers d'auditeurs, il a été converti par le témoignage de quelqu'un qui n'avait certainement pas le don d'éloquence, qui a apporté le message de cette manière ultra, ultra simplifiée, qui l'a touché. Alors, dans les semaines qui suivent, il continue de lire sa Bible, il continue à lire des livres, etc. Et il est convaincu de la vérité du baptisme à ce moment-là, très peu de temps après sa conversion. Donc il commence à fréquenter des églises baptistes. On lui demande, une première fois déjà, c'est presque un piège, il ne s'était pas du tout préparé, « Allez, on le propulse, il faut que tu prêches. » C'était des petits groupes, hein. C'était des églises baptistes qui n'étaient pas très très, très nombreuses, dans ce coin, autour de Cambridge, des villages, etc. Alors il prêche, et puis ça marche tellement bien qu'on lui demande de prêcher dans tous les villages alentours. À cet âge-là. Et ça marche si bien qu'à 18 ans, sans qu'il ait fait d'études autrement que par ses lectures, il y a une église baptiste à Cambridge qui lui demande d'être pasteur, à 18 ans. Cette église, au moment où il la prend en charge, elle compte une quarantaine de personnes au culte. En 2 ans, ça atteint 400. Tentez-le, éclatant le don qu'a ce jeune homme, Et puis en plus, sa jeunesse fait que c'est un argument publicitaire. Hein. On dit « the boy preacher », ce garçon prédicateur. Et quelqu'un assiste à l'automne 1800. Attendez, je regarde bien ma date, 1853. Voilà, 1853, donc vous voyez, il n'a pas encore 20 ans. Hein, il a encore 18 ans ou juste 19. Quelqu'un d'une grande église de Londres, baptiste, l'église historique hein, de Londres, où il y a eu les baptistes dès le XVIIe siècle, les plus fameux comme pasteurs, un membre de cette église l'entend prêcher, le dit chez lui, on lui demande de venir en novembre prêcher, il s'exécute, on lui redemande de revenir pour 3 dimanches de file en janvier, et puis on lui demande d'être pasteur. Et il devient pasteur de cette église fameuse, historique, du baptisme anglais à Londres. Et là, l'histoire continue. Très vite, la salle n'est pas assez grande. Il faut en chercher une autre, il faut en chercher encore une autre, encore une autre. Il y a des milliers d'auditeurs qui se pressent pour entendre ce Spurgeon qui prêche d'une manière tellement étonnante. Et il y a deux choses alors qu'il faut tout spécialement mentionner. Il y a d'une part un accident terrible qui le précipite dans une sorte de dépression pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a eu 7 morts. Le 19 octobre 1856, il prêche dans une très grande salle, des milliers d'auditeurs. Et puis, à l'époque, il n'y a pas tous les règlements de sécurité qui sont pour nous gênants, mais ils sont quand même inspiré par une certaine sagesse. Et à un moment, alors qu'il y a la foule partout, il y a quelqu'un qui crie « Au feu, au feu !» Peut-être était-ce une forme de malignité, était-ce pour nuire, parce qu'il a été très vite attaqué, on s'est moqué de lui dans les journaux, ce prédicateur trop brutal, dont certains le trouvaient vulgaire, parce qu'à cause de son caractère direct, etc. Et puis il y avait toujours des jalousies hein, avec tant de milliers de gens. Peut-être était-ce donc intentionnel. En tout cas, une bousculade horrible se produit et il y a eu 7 morts. 7 morts par écrasement. Alors ça a beaucoup affecté le jeune Spurgeon à ce moment-là. Et donc ultérieurement, mais c'est quelques années plus tard, ça c'est la deuxième chose, il a fait construire un temple pour correspondre donc à son auditoire régulier, qu'il a appelé le tabernacle. Le tabernacle métropolitain, le tabernacle de Londres. Il l'a appelé tabernacle en souvenir de Whitfield, dont nous avons parlé aussi, qui avait appelé les endroits qu'il avait construits aussi tabernacle. Donc, il l'a appelé tabernacle, c'est pour ça que notre église aussi s'appelle tabernacle. J'anticipe. Et donc, là, 6 000 places, et jusqu'à sa fin, l'auditoire n'a pas décliné. 6 000 personnes dans un très grand bâtiment qui a été fortement endommagé, oui, détruit par la Deuxième Guerre mondiale. Moi, quand j'étais étudiant à Londres, j'allais au culte du matin, parce qu'il y a un culte du matin et un culte de l'après-midi, où il y avait, en tout cas à l'époque. Donc j'allais au tabernacle de Spurgeon, mais c'était un auditoire de 300, et c'était dans le sous-sol à l'époque, c'était en 56-57, donc j'ai vu ce tabernacle, mais pas encore tout reconstruit. Et donc lui fait construire ce tabernacle, et c'est donc une très grande organisation, il était très bon organisateur en même temps. Tous ces sermons se diffusent mondialement, imprimés avec une rapidité de journal. Ça partait de pratiquement dès le lendemain. Donc un auditoire mondial extrêmement étendue. Et il est resté donc le pasteur de cette église pendant tout ce temps-là. Et il a su en même temps déployer une activité au-delà même de la prédication dans son église et du conseil pastoral, parce qu'il en faisait aussi. D'une part, il a eu très à cœur d'œuvrer dans ce qu'on appellerait le social ou le caritatif. Et il a organisé des colporteurs, plusieurs dizaines de colporteurs dans la Grande-Bretagne tout entière. Il a d'ailleurs, à la fin de sa vie, détaché un assistant pour aider l'église de Sayers à Paris, tout à la fin de sa vie. Il a fondé des orphelinats, jusqu'à avoir 500 orphelins desquels l'institution qu'il avait créée prenait soin. Et il a créé une école, un collège de formation de pasteurs. Alors il a commencé en 1856, par un seul qui avait pris avec lui. Il a commencé petitement pour essayer pour le former à ses côtés. Et puis ça s'est transformé en une école nombreuse qui existe toujours, pas au même endroit, mais que j'ai été quelques fois. Donc je la connais un peu. Donc vous voyez quelle a été l'ampleur, l'abondance amazonienne de l'œuvre qu'il a accomplie. Alors que dire de l'homme et de sa doctrine? J'ai déjà mentionné sa mémoire. Je pense qu'on peut dire aussi sa rigueur, la fécondité de son imagination, surtout exprimée par toutes les histoires qu'il racontait dans ses prédications, toutes les images qu'il mettait en cause, qu'il glissait dans ses textes. Il y a bien sûr cette fermeté qu'il a montrée lorsque des éléments de libéralisme se manifestant dans l'Union baptiste dont il était membre, il a jugé qu'il fallait qu'il en sorte. Il y a eu toute une controverse avant la décision prise. Il a essayé de ramener dans des voies plus fermement évangéliques l'ensemble de la dénomination baptiste, mais comme il n'y a pas réussi, il est sorti après cette controverse sur le déclin du baptisme. Mais tout cela, il l'a accompli avec deux handicaps physiques vraiment lourds. La goutte. Il a souffert de la goutte, et probablement, je pense, dès 40 ans, puisque j'ai cité la description que fait de lui Ruben Sayers. C'est très, très douloureux. Et, plus important encore, des accès de dépression, comme un certain nombre de puritains au XVIIe siècle, d'ailleurs. Plusieurs des grands prédicateurs puritains ont souffert de dépression, ce qui l'obligeait à se reposer, il allait se recharger ses batteries à Menton. Il aime bien la France. Mais nous voyons de cette façon comment il a dû lutter pour accomplir son ministère. Et c'est prématurément, usé par ces choses, qu'il est décédé. Parce qu'il est décédé à 57 ans. En janvier 1892. Il était passé par Paris, si j'ai bien la chronologie, tout à la fin, en décembre 91. C'est là que Ruben Sayers l'a vu en dernier lieu, et il est décédé à Menton. Sa théologie était celle de Bunyan, un peu plus strictement baptiste quand même, mais d'un baptisme très ouvert. Il a été attaqué par les hyper-calvinistes baptistes qui restaient. Je vous ai parlé la dernière fois de cet élément de controverse parmi les baptistes au XVIIIe siècle. Spurgeon a exactement eu la théologie de William Carey, la théologie d'Andrew Fuller, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était sur ce point celle de Calvin. Donc il se séparait de Calvin sur la question de l'Église et du baptême, mais il était d'accord avec lui, comme avec William Carey, il faut prêcher l'Évangile à toute créature, appeler à la conversion tous les humains, et c'est ce qu'il faisait. Donc il n'était pas hyper, il était calviniste de cette façon. Et pour la Sainte Cène, il pratiquait ce que nous croyons aussi juste, c'est-à-dire la Cène semi-ouverte. C'est-à-dire que la prédication de la doctrine dit que, normalement, il convient d'être baptisé, et baptisé sur profession de foi, baptisé dans le sens biblique avant de prendre la Cène, que c'est l'ordre normal, mais que nous ne voulons pas empêcher des frères et sœurs d'autres églises qui seraient en visite et qui n'ont pas cette conviction de participer avec nous à la scène. C'est ce qu'on appelle la scène semi-ouverte. La majorité des baptistes jusqu'alors avaient été plutôt scène fermée, seulement les baptisés, les vrais baptisés baptistes. C'est ce qu'on appelle le baptisme strict. Et le premier baptisme français aussi a été baptiste strict, parce qu'il a été instruit par les missionnaires baptistes qui sont venus au 19e siècle. Mais Spurgeon a introduit cette position intermédiaire que, ben, je peux le dire tout de suite aussi, Saïens a adopté de son côté, et de telle sorte que ça a été aussi la position dans l'Église. Alors maintenant, je parle de Saïens, Rubin Saïens, dont je dis vif comme le gardon. Là, je joue pour contraster avec abondant comme l'Amazone, vif comme le gardon. Je pensais bien sûr à la formule frais comme le gardon, mais le gardon étant un poisson qui est très vif. Mais je pense aussi à la rivière qui passe à Saint-Jean-du-Gard, où il est né et où il a grandi, le gardon de Saint-Jean, qui est très... Une rivière très, très capricieuse, mais qui a des cascades qui sautent de manière très vive, alors qu'il peut déborder, il peut, comme avec les Puissonnoles, tout à coup ça devient un fleuve effarant. J'ai vu à Anduze, quand j'étais au mois d'octobre, j'étais à la convention d'Anduze, et j'ai vu les marques de la hauteur d'eau là, au centre de la ville. Alors que le Gardon est à 200 mètres par un petit ruisseau, à hauteur d'homme, le centre-ville a été complètement à plusieurs reprises. Alors je ne sais pas, ces jours derniers, ce qui en a été, mais donc voilà, vif comme le Gardon, je crois que cette vivacité correspond assez bien au style qui a été celui de Rubin Saïens. Il a publié un certain nombre de choses, mais ça ne se compare pas en volume à la production de Spurgeon. Là, de ce point de vue-là, nous avons quelque chose de difficilement comparable. Il a écrit certaines choses, mais ça n'a pas été si abondant. Alors, il est né, lui aussi, au mois de juin, mais 1855, donc à Saint-Jean-du-Gard, qui est dans les Cévennes, un pays camisard où la réforme avait pris, mais a été effroyablement persécutée. C'est tout près de ce qu'on appelle le musée du désert. Le mas Soubéran, c'est tout près de Saint-Jean-du-Gard. Alors ça s'appelle musée du désert parce que les réformés, les chrétiens évangéliques, parce que c'était des réformés tout à fait évangéliques, de l'époque de la persécution, ne pouvaient pas se réunir dans les villages et se réunissaient dans les lieux déserts. Ce n'est pas le désert du Sahara, hein, c'est le désert des Cévennes, les lieux déserts, avec des guetteurs, etc., avec des chaires portatives. Ils se réunissaient donc au désert. Et le musée qui rappelle cette lutte pour préserver leur foi des hommes et des femmes touchés par la réformation à l'époque, qui n'ont pas voulu abandonner la Bible, le musée en rappelle le souvenir, avec des tas d'objets, avec, par exemple les miroirs creux dans lesquels on cachait des Bibles. Et il y a un grande, grande plaque de marbre avec les noms des galériens pour la foi, dans ce musée du désert, juste au-dessus d'Anduze, hein, qui est tout près de Saint-Jean-du-Gard. Et parmi ces noms, il y a un Saïens. Il y a eu un ancêtre du nom Saïens qui a ainsi payé sa persévérance dans le Seigneur. Alors, le grand-père du petit Rubin est meunier. Son père, Auguste, qui était une personnalité quand même assez remarquable, son père, il est très pauvre. Il est, je crois, à la fois rempailleur de chaises, pour gagner un peu quelques sous, et évangéliste. L'origine est plutôt darbiste, église touchée par le réveil à Saint-Jean-du-Gard, il y avait plusieurs sortes, elle n'est pas baptiste non plus. Oui. Une église à Saint-Jean-du-Gard, et Auguste Saïens va être évangéliste sans être identifié comme baptiste. Il épouse une femme de Saint-Jean-du-Gard, une jeune femme de Saint-Jean-du-Gard, qui s'appelle de la famille Guigou, Émilie Guigou, et elle meurt très peu de temps après la naissance de Rubin. Il a, je crois qu'environ 2 ans. Donc il a perdu sa mère, il était orphelin, et sans doute en a-t-il gardé une mélancolie tout au long de sa vie, orphelin. Alors, il est d'abord élevé, et Auguste Saïens a dit, quand on lui demandait de quoi il était mort, il a dit de misère. C'est ce qui illustre ce que je disais de la connaissance de la pauvreté. Alors, le père, à ce moment-là, travaille dans la région de Marseille, et c'est la grand-mère Guigou qui élève à Saint-Jean-du-Gard pour ses premières années, jusqu'à 6-7 ans, le jeune Rubin. Et ça fait partie d'années heureuses dans son souvenir. Cette grand-mère était... Il y avait l'autre grand-mère Saïens aussi, mais il était surtout soigné par la grand-mère maternelle, Guigou, à Saint-Jean-du-Gard. Son père se remarie à Marseille et du coup le fait venir auprès de lui. Alors les conditions sont toujours dures, mais enfin il peut être à Marseille. Donc ensuite, il continue à vivre son enfance à Marseille. Et là, il a un instituteur qui est poète et qui joue beaucoup pour l'encourager à faire de la poésie, pour lui en donner le goût et le sens. Et même quand il doit le punir, il lui donne comme punition d'écrire un poème. Ce qui convient fort bien au jeune Rubin. Il ne peut pas continuer quand même les études très, très loin. C'est des études, en gros, des études primaires qu'il peut faire. C'est sous le Second Empire, c'est la dernière partie du Second Empire. Le système scolaire n'est pas encore un système aussi développé qu'il le sera à partir de la fin du XIXe siècle. Et il est mis au travail très vite, casson de course, comme ado, pré-ado. Et là, la famille s'est déplacée à Lyon, donc la tranche suivante est à Lyon qu'elle se situe. Il est employé au Crédit Lyonnais, comme coursier, mais aussi pour des écritures. Ça va lui donner certaines bonnes habitudes. Et en même temps, alors, c'est le grand développement des UCJG, Union Chrétienne de Jeunes Gens, dont vous avez entendu parler sans doute. C'est un mouvement qui a été fondé en Angleterre, avec extension aux États-Unis ensuite, mais ça a commencé en Angleterre, qui est entièrement évangélique au début. C'est un mouvement d'évangélisation, un peu comme OM, si vous voulez, opération mobilisation, aujourd'hui. Et toute sa première histoire a été très, très évangélique. Et donc, à Lyon, il y a une Union chrétienne de jeunes gens et un autre groupe proche que fréquente aussi le jeune Rubin. Le jeune Rubin va se convertir dans l'un des groupes grâce à un évangéliste qui fait une visite. Donc, sa conversion est aussi, vous voyez, de ces jeunes années, 16-17 ans. Et très vite, il devient le meneur dans le groupe UCJG, dans l'autre groupe dont il fait partie. Il est très populaire, il écrit des poèmes, il les récite, il a une voix très belle, il chante, il écrit beaucoup de chants. On l'apprécie comme chanteur en particulier. Il chante des solos. Celui-ci, c'est mon préféré. Et là, il devient aussi baptiste de conviction. Voilà, à peu près aussi jeune que Spurgeon l'est devenu. Il devient la baptiste. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément encourageant de ce côté? Mais il fait la connaissance de la famille du pasteur baptiste de l'église baptiste de Lyon, à laquelle il va se joindre. Église baptiste qui est conduite à ce moment-là par celui dont beaucoup de gens disent qu'il a été le pionnier français du baptisme en France. Il vient du Nord, il est le fils d'une des premières converties baptistes de France, Catherine Boucan. Il est son fils, Jean-Baptiste Prétin. C'est par lui que vont se convertir la plupart des leaders baptistes qui vont suivre. Il a reçu une formation dans une école baptiste qui était à Arras, si je me rappelle bien, ou à Douai, je ne sais plus. Il a été pasteur dans plusieurs églises du Nord, colporteur là aussi dans des conditions de misère. Son journal, qui sera peut-être publié, mais montre vraiment une économie de quelques centimes dans la boue, avec les curés qui le chasse du village, avec les garnements qui lancent des pierres. C'est vraiment très, très, très dur. Mais il a été pionnier du baptisme, et donc sur son âge avancé, il est pasteur d'une église baptiste assez importante à Lyon. Et il a une fille parmi ses filles, Jeanne, avec qui Rubin fait de la musique. Elle chante aussi très bien, très jolie voix. Et donc, ils sont ensemble, font de la musique, et voilà, les sentiments naissent. Il va devenir donc là, bien que son père soit rattaché à l'Église libre, travaille pour l'Église libre, il va devenir baptiste. Et avant son mariage devra être retardé de pas mal d'années, parce qu'il est très très jeune encore, et elle aussi, et un an de moins que lui encore. Mais ils vont finir par se marier. Et donc, il a cette activité-là, et la guerre de 70 éclate, son père s'engage comme ambulancier, et il accompagne son père. Il voit les horreurs, il a 15 ans, il voit les horreurs de la guerre, les blessés, mais il revient assez vite à Lyon. Et là se produit une rencontre assez extraordinaire, un évangélique anglais, un peu original, qui s'appelle Grattan Guinness, qui a passé plusieurs années à Paris avec des efforts d'évangélisation, qui s'intéresse à la cause de l'évangile en France. Ce Guinness fait un voyage à Lyon, on lui signale ce jeune homme qui attire l'attention, et il le rencontre, et finalement il est décidé qu'il va devenir étudiant dans l'école, l'institut biblique que Guinness vient de fonder dans l'est de Londres. Alors, il faut que ce soit financé. Si Guinness, qui n'a pas beaucoup d'argent, bien qu'il soit de la famille de la bière, Guinness, hein, il ne dispose pas lui-même beaucoup d'argent, mais il réussit, il a des amis, etc., à faire financer les études de Rubin Sayens dans cet institut biblique, où la formation est en grande partie pratique, et parmi les déshérités de Londres, l'est de Londres. On contraste, hein. Les vents viennent d'ouest, chassent toutes les fumées, donc la banlieue ouest et l'ouest de Londres, c'est les quartiers huppés, et puis l'est de Londres, c'est les quartiers misérables. Et c'est là qu'est construit cet institut biblique, où il passe son premier semestre, il revient pour Noël à Paris, parce que son père a été déplacé à Paris, et là il fait la connaissance d'un autre évangéliste anglais qui a créé une mission à Paris, Robert McCall, qui remarque ce jeune homme. Alors, Rubin repart quand même pour Londres et fait un deuxième semestre dans cette école, mais c'est tout ce qu'il aura comme formation. Deux semestres d'institut biblique particulièrement pratiques. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il a réussi quand même à engranger d'abord l'anglais. Il ne savait pas l'anglais quand il est parti. Et au bout de 3 mois, il peut déjà prêcher dans les rues en anglais. Donc, une souplesse pour l'apprentissage des langues. Il a même une petite teinture, mais ça n'est pas beaucoup servi, hein, mais une petite teinture de grec et d'hébreu. J'ai un petit livre, je ne sais plus où il est exactement, mais des psaumes qu'on lui avait donnés dans cet institut, où de sa main, il y a des traductions de mots hébreux. Il avait une écriture toute petite, bien fine, et donc ça montre qu'il a eu quelque chose quand même dans ce domaine. Mais 2 semestres, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très très peu. Et quand il revient après le 2e semestre, McCall lui met le grappin dessus. Non, il est trop doué, il n'est pas question de lui permettre de retourner en Angleterre. Il est engagé comme évangéliste. Donc dès 73, il n'a pas 20 ans. Évangéliste en région parisienne, et il va le rester un certain nombre d'années. Alors c'est dévorant. Il y a des salles dans tous les coins de Paris les plus populaires, dans la branche banlieue aussi. Il prêche au moins 50 fois par semaine dans ces divers lieux. Alors il le fait méthodiquement. Je me rappelle, c'était ma grand-tante qui le disait. Il notait toutes les illustrations. Il voulait employer dans un cahier avec soin pour pouvoir s'en servir. Donc, il a une activité d'évangélisation absolument dévorante. Alors, se situe dans les années qui suivent un épisode marseillais. Il a été obligé de faire 1 an de service militaire à Marseille. Et il a pu ne faire qu'un an, parce qu'autrement, c'était 6 ans. Parce qu'un chrétien anglais a donné les 1500 francs, ce qui était une grosse somme à l'époque, pour qu'il ne soit pas obligé de faire plus. Mais il a quand même eu cette expérience. Alors c'était à Marseille. Et là, il a contacté des gens, il y a des gens qui l'aiment, qui le persuadent de rester là-bas et de créer une mission là-bas. Donc pendant, je crois, 4 ans, au moins 4 ans, il lance une mission à Marseille, et c'est comme à Paris, un très grand succès. Il ouvre des salles, il y a des centaines de personnes qui sont touchées. Alors, McCall fait tout ce qu'il peut pour le rapatrier sur Paris. C'est un très, très grand dilemme pour Rubin et sa femme, parce qu'il s'est marié en 77, Jeanne. Et finalement, comme le bras droit de McCall vient de partir, que vraiment la mission McCall est en péril, il accepte de revenir à Paris. Alors, les Marseillais sont très malheureux, mais pour devenir donc l'adjoint de McCall et recommencer cette activité d'évangélisation très considérable en région parisienne. Alors, je n'entre pas dans tous les détails. Il y a, dans ces années-là, après son retour sur Paris, une crise spirituelle. Il a sans doute commis une faute. D'une part, il s'est laissé surmener et il n'a sans doute pas cultivé le recueillement personnel, le rapport avec le Seigneur, comme il aurait dû. Et puis, avec son talent, avec son éloquence au chant, etc., il devait être très séduisant et attirer beaucoup, beaucoup des personnes du sexe féminin. Donc c'est probablement, ce n'est pas dit en clair dans la biographie, mais je crois que c'est la faute qu'il a commise. Il en sort de cette crise par une repentance très très profonde. Jeanne, sa femme, considère que c'est sa vraie conversion. Il fait vraiment l'expérience qui correspond à Zacharie 3, comme sur un sacrificateur Josué couvert de vêtements sales, plein d'excréments, hein, qui est impur devant le Seigneur. Et le Seigneur, qui dit, n'est-ce pas, dis-moi, j'ai du feu, enlevez-lui tous ses vêtements. Et mettez-lui des vêtements propres. Il fait cette expérience-là, très, très, très profondément. Donc, et puis là, quelques semaines après, je crois, comme une vision, un ange qui le visite, ou le Seigneur qui se montre en vision à lui, en tout cas, il a une vision aussi. Donc, à partir de ce moment-là, il est très, très engagé. Ça, c'est la première chose à propos de ces années McCall. La deuxième, c'est que le succès de l'évangélisation est tel qu'il y a beaucoup de monde qui s'est converti, mais les églises existantes ne conviennent pas très bien. Et McCall lui-même reconnaît qu'il faudrait créer des églises. Mais le problème, c'est que la mission McCall, qui est soutenue par des fonds anglais, hein, cette mission McCall, elle est interdénominationnelle. Donc, si on crée une église d'une couleur dénominationnelle, on risque de mécontenter les donateurs qui ne sont pas de cette couleur-là. Alors finalement, ils se dirigent vers l'idée de permettre à des groupes de choisir eux-mêmes leur couleur et d'en avoir plusieurs, des églises issues de la mission McCall, qui seraient les unes libristes, d'autres réformées, d'autres frères, d'autres baptistes. Et donc, en accord avec McCall, il est décidé que Ruben Saliens va réunir des convertis qui voudront être baptistes. Et en décembre 88, il y a un premier culte, un groupe qu'il constitue, avec d'ailleurs 14 membres qui viennent de l'église baptiste préexistante, qui existait déjà à la rue de Lille, dans le bâtiment de la rue de Lille. Ruben Saliens avait fait 6 mois de remplacement du pasteur, qui était trop fatigué, donc il était connu, et en plein accord, hein, mais 14 membres sont partis avec lui, donc ils n'étaient pas des convertis récents, et donc un certain nombre de convertis récents, et ils se sont retrouvés dans des locaux d'abord commerciaux, hein, qu'ils ont transformés, rue Saint-Denis. Le premier culte a eu lieu en décembre 88. Alors le problème a été sans doute le problème du très grand succès. Le succès de cette église a été très rapide en 89, et ça a créé des sentiments négatifs du côté de la mission McCall, du comité, pas tellement de McCall eux-mêmes, qui ont des McCall, monsieur et madame, qui aimaient beaucoup Ruben Saliens, mais des membres du comité. Parce qu'il y a eu comme une épidémie de jonction du bon baptisme. Même un autre serviteur de cette mission qui s'est fait baptiste, qui a rejoint. Et ça crée des jalousies, ça crée des difficultés. Donc il y a eu quand même un refroidissement. Puis il n'avait plus le temps. Il était convenu qu'il travaille encore un peu pour McCall, mais ça, il n'y réfléchissait plus. Donc il y a eu là, c'était avec l'accord McCall que l'église a été fondée, mais il y a quand même eu des sentiments qui n'étaient pas tout positifs. Mais l'Église a grandi très vite. Et par exemple, un s'était joint en 92, alors là, j'anticipe un petit peu, qui était Robert Dubarry, qui est une des sources de mes renseignements sur Ruben Saliens. Robert Dubarry, qui a été le pasteur de l'Église baptiste de Nîmes et le président de l'association baptiste pendant très longtemps. Et c'est lui qui a convaincu de devenir baptiste Arthur Blocher, qui était un jeune homme d'affaires à Londres. C'est Robert Dubarry. Ben Robert Dubarry est devenu membre de l'Église. C'était l'Église fondée par Ruben Saliens. Alors c'est une Église qui appartenait donc au mouvement baptiste et qui était soutenue, comme les autres baptistes français, par des fonds soit anglais, soit américain. Et Ruben Saliens a fait 2 grands voyages aux États-Unis à l'époque, passant plusieurs mois à chaque fois, accueilli très très largement, ce qui aussi permettait de susciter des dons pour l'œuvre. Donc cette église s'est développée, mais dans les années 90, il y a eu une crise extrêmement dure, je crois par effet de jalousie, d'abord, mais peut-être pas seulement. Aussi pour des raisons financières. Rubens Allianz, qui avait été en Angleterre et en Amérique, était le canal par lequel les finances arrivaient. Et ça créait des méfiances. Est-ce qu'il n'en gardait pas pour lui, etc. Et puis, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, et les dons américains, tout à coup, ont diminué énormément. Ce qui fait que plusieurs pasteurs se sont trouvés dans l'Union Baptiste en difficulté. Alors, Rubens Saïens était, d'après Du Barry, secrétaire général de l'Union Baptiste. Il était en tout cas le rédacteur en chef du journal qui était l'écho de la vérité. Il était bien placé, mais il a été l'objet d'une cabale très très vilaine. Des calomnies, on l'a accusé. Il recevait pratiquement tous les jours des cartes postales injurieuses, avec c'était des cartes postales pour que tout le monde puisse, dans le circuit, voir ce qui était écrit. C'était envoyé aux autres pasteurs de Paris, etc. Alors, les Américains ont fait une enquête fouillée, ont entièrement blanchi le Saïens, mais ça a été extrêmement pénible pendant ces années-là. Alors, l'Église a quand même continué à croître. Bon, il y a encore eu comme difficulté que Rubens Saïens ne semblait pas très bien choisir ses collaborateurs. Et qu'il y en a eu deux ou trois qui ne se sont pas conduits comme ils auraient dû. Un qui a emporté toute une partie de l'Église, avec lui qui était en charge d'une annexe, et puis voilà, il est parti avec pour être pasteur, mais profitant d'un voyage en Amérique d'ailleurs. Donc il y a eu des difficultés comme cela, mais ça n'a pas empêché l'Église de grandir, des jeunes qui s'étaient formés auprès de Rubens Saïens, de partir ensuite en province, de créer des églises baptistes. En 1898, l'Église s'est transférée de la rue Saint-Denis à la rue Mellet, un autre lieu, et ça a continué avec des gens assez connus, par exemple Paul Passy, qui était professeur à la Sorbonne, un chrétien socialiste connu, est devenu membre de l'Église aussi. C'est lui qui a fondé le nid de Liéfra, qui est devenu le nid fleuri ultérieurement. Et il était, je crois, le fils ou le petit-fils, je ne sais plus, d'un prix Nobel, d'un des premiers prix Nobel de la paix. Vous voyez, l'Église dont Saïens était le pasteur attirait vraiment du monde d'une très grande diversité de situations. En 1905, il a assisté, avec un groupe, ils sont partis en groupe, au réveil du pays de Galles. Et il en a été très impressionné. C'est de là qu'il a rapporté d'ailleurs Torrent d'amour et de grâce, qui est un des cantiques de ce réveil du pays de Galles qu'il a traduit. Parce que tout ce temps-là aussi, il n'a pas cessé d'écrire de nouveaux poèmes, de nouveaux cantiques, beaucoup de traductions et d'autres cantiques qu'il a créés lui-même. Et il a vu comme son ministère de relayer leur réveil dans tout le protestantisme, ou même au-delà du protestantisme francophone en Europe. Donc à ce moment-là, il a demandé à son adjoint, qui avait épousé sa fille, Arthur Blocher, qui était venu le rejoindre comme adjoint à la fin du 19e siècle, dans les dernières années 90, il lui a demandé de devenir le pasteur de l'Église, un titre, lui est devenu pasteur honoraire, et il s'est consacré entièrement à un ministère itinérant. Il a pu dire qu'il avait sans doute gravi plus de chaires réformées qu'aucun pasteur réformé ne l'avait fait, tellement il a été invité comme prédicateur du réveil. Et à cette prédication du réveil, sa première caractéristique, si l'on veut, il a conjoint la lutte contre le libéralisme. Il s'est rendu compte que vraiment c'était une attaque à la racine de la vérité de l'Évangile et de la puissance de l'Évangile. Et donc, il a créé à partir de 1910 des cours de Bible et doctrine associés à une convention spirituelle. convention de réveil. Alors, ils ont d'abord eu lieu ces cours à Chèbre, ils ont un village au-dessus du Léman, et puis ils se sont transportés dans une autre ville sur les bords du Léman, à Morges, après 3 ans, avec une très grande tente, parce qu'il n'y avait pas de salle assez grande, mais avec des milliers de personnes chaque année. Alors ça a commencé avec des cours assez longs, hein, pendant l'été. Chèvre, puis Morges, ce qui a eu un très grand succès. Il en a créé une autre dans les Cévennes, à Lézan, de la même façon, et encore d'autres réunions de ce genre. Ça a été la deuxième grande forme de son ministère. La guerre est arrivée sous les tempêtes, la Première Guerre mondiale, qu'il a passé pour l'essentiel à Nîmes, en continuant à prêcher beaucoup, en influant beaucoup sur le christianisme évangélique du Midi. Et en 1918, il a fait de nouveau un grand voyage aux États-Unis. Alors là, ça a été un voyage à la fois patriotique et évangélique. Dans toutes ces réunions, il y a eu des tas de réunions, etc., on chantait la Marseillaise. Toutes les foules américaines chantaient la Marseillaise avec lui. Alors, ce n'est pas tout à fait un chant évangélique, hein, un sang impur à boire nos sillons, non, quand même, mais bon. Il a été en même temps, là, à l'époque, là, donc, les États-Unis étaient entrés en guerre avec la France, c'était le dernier effort, et il a été là, porteur d'un message qui était, sinon politique, du moins, en tout cas patriotique, dans la guerre. Il a compté. Puis il est revenu, et alors se sont passés deux événements très différents, mais qui ont conditionné quand même la dernière tranche de sa vie, car lui a vécu très tard. D'une part, l'Église, dont il n'était plus le pasteur en titre, mais parce que dans l'Union baptiste, lors d'une rencontre, d'un congrès, se sont exprimées des choses qui ont paru déjà libérales. Arthur et Madeleine Blocher ont jugé nécessaire de sortir de l'Union baptiste. Et comme il n'était pas d'accord avec Robert Dubarry, le grand ami, mais comme il n'était pas sur la stratégie à adopter, Robert Dubarry disait « Non, c'est nous qui avons la majorité, restons et dominons les choses. » Mais Arthur Blocher et Jeanne Blocher et Madeleine Blocher ont voulu sortir, ils sont sortis. C'était très coûteux, hein, parce que ça voulait dire quitter non seulement la rue de Lille où ils étaient là depuis 1910, c'était le local de l'Église, mais qui appartenait à l'Union baptiste, pas à l'Église. Et non seulement c'était quitter ce local, mais quitter aussi l'appartement pastoral. Mais ils y ont vu là vraiment l'appel du Seigneur, et avec la majorité de l'Église, pas tout le monde quand même, hein, ils sont sortis, ont trouvé un lieu dans le 18e, et ont pris à ce moment-là le nom de Tabernacle, parce qu'ils suivaient en quelque sorte les traces de Spurgeon. C'est comme ça que ça s'est fait, ça a été le premier événement. Alors, Rubens Saillien, c'était quand même à quelque distance, mais il est toujours membre de l'Église, pasteur honoraire. Donc il a quand même aussi vécu ce moment-là. Il avait été déçu quand même par pas mal de baptistes français, donc il s'est pas opposé à cette décision. Deuxième chose, il s'est rendu compte qu'il fallait une école pour former d'une manière vraiment fermement évangélique des pasteurs pour les églises françaises. Et d'abord, c'était une idée, c'est toute Madame Saillien, Saint-Jean, pour les jeunes filles qui avaient perdu leur fiancé dans la guerre. Mais l'Institut s'est ouvert pour les deux sexes, et grâce à des dons venus d'Amérique, qui ont d'abord permis de louer, puis d'acheter la propriété à nos gens. Et là, il est devenu donc le directeur de nos gens, et a eu 20 ans, en gros, de ministère comme professeur et directeur de l'Institut de nos gens. Alors qu'il avait atteint, là, voilà, en 1920, vous pouvez voir, l'âge qu'il avait atteint. Il est né donc en 1855, hein, l'âge officiel de la retraite. Mais il a continué à prêcher aussi au tabernacle. Il prêchait une fois par mois. Il n'est quand même pas rien. En gros. Donc jusqu'au dernier moment, la guerre en 39 l'a dispersé. Son fils aîné a cru bon de le conduire en Normandie, là où lui-même se trouvait, en comté sur Noireau. Et c'est là que, en janvier 42, il est décédé. 3 mois après sa femme. Donc, ils avaient vécu quelques 65 ans ensemble. Voilà le profil du ministère de Saïens. Alors, que dire encore de l'homme et de sa doctrine? Ce qui frappe d'abord, c'est, me semble-t-il, l'agilité de son intelligence, la souplesse. Il a l'air de tout comprendre tout de suite et d'avoir une excellente mémoire pour se le rappeler. Et les langues en particulier, c'est quand même extraordinaire qu'en quelques mois, il était capable d'avoir une connaissance de l'anglais telle qu'il était un orateur apprécié en Angleterre ou en Amérique. Il a même eu reçu, à un moment donné, une demande pour devenir le pasteur du tabernacle de Spurgeon. Alors, il l'a décliné, mais c'est quand même assez extraordinaire comme souplesse de son intelligence. Un fond mélancolique, très certainement. Une difficulté à apprécier vraiment ce que valaient les collaborateurs qu'il engageait. Ça, il se faisait sans doute des illusions. Il y avait tant de gens qui se pressaient autour de lui, qui voulaient adhérer et profiter en quelque sorte de son rayonnement, qu'il n'a pas su sans doute tout discerner comme il aurait dû. Du point de vue de la doctrine, il était certainement moins rigoureusement calviniste que Spurgeon, je pense. Bien qu'il ait défini sa position comme chrétien, réformé au sens protestant, calviniste, baptiste. Dans cet ordre-là, lui-même, c'est dans la biographie, lui-même a choisi ces quatre mots, hein, pour caractériser. Mais je pense qu'il n'avait pas reçu de formation classique en théologie, pas classique. Il utilisait par exemple la Bible Scofield. Alors, on le voit dans son petit livre « Le mystère de la foi », qui est son manuel de doctrine, livre, hein, mais très bien fait. Mais on voit qu'il utilise la Bible Scofield. En même temps, il ne semble pas qu'il ait donné un enseignement dispensationaliste. Il était préminériste, certainement. Pour Spurgeon, c'est la chose d'y discuter, pré ou post. Mais pour... Donc, il avait cette position. On peut encore signaler que sur la question de la seconde bénédiction, un baptême du Saint-Esprit qui serait une autre expérience. Madame Saïens avait fait une expérience de ce genre et tendait de ce côté-là. Jeanne Saïens, je crois qu'on peut le dire, c'était pas la forme pentecôtiste, parce que c'était pas lié au parler en langue, mais c'était quand même cette forme deuxième bénédiction, comme elle l'avait vécue elle-même, et elle a influencé ses filles. Là, pas tellement Madeleine, je crois, mais les autres, je les ai entendus. Mais jamais, je n'ai rien trouvé chez Rubin, malgré son expérience en quelque sorte de deuxième conversion après sa crise, qui aille dans ce sens. Il est resté dans une doctrine, je pense, beaucoup plus sobre et plus conforme à l'enseignement calviniste, piétiste, disons de la continuité. Donc, il a eu cette sagesse, et je pense que ce qui est remarquable, c'est la combinaison chez lui d'une très grande fermeté contre le modernisme et d'une très grande ouverture évangélique. Prêt à collaborer avec des gens qui n'étaient peut-être pas aussi stricts qu'il aurait voulu, il a été. Je crois que c'est Hector Alexander qui avait collaboré avec lui d'abord, un évangéliste et pasteur, lui aussi d'origine britannique, a rompu avec lui pour cette raison, jugeant Saïens trop large. Il avait collaboré d'abord avec la Convention de Morges, mais il s'en est retiré et il a fondé l'Action biblique, avec les maisons de la Bible, etc. Parce qu'il ne trouvait Sayens trop large. C'est vrai que Sayens a été à la fois remarquablement large, comme on voit aussi dans le recrutement de l'Institut de Nogent, les professeurs étaient invités. Il n'a pas voulu en faire une école baptiste, strictement, hein. Non, très largement, et en même temps, très très ferme sur les points essentiels. Voilà, alors quelle leçon tirer ? Je suis, oui, j'ai dépassé horriblement mon temps. Vous êtes très gentil. Quelle leçon tirer ? Je n'en tire ici qu'une. Je suis frappé de la force des épreuves, de la lourdeur des épreuves qui ont accompagné les dons exceptionnels que Dieu avait faits à ces deux hommes. Et Spurgeon et Sayens ont quand même beaucoup souffert. Et ça me semble la loi de l'écharde dans la chair. Avec un ministère aussi éclatant, ah oui, le danger était très fort, de s'enorgueillir, etc. Et ils ont l'un des nôtres eu à subir. Voilà, ça nous montre quelle est la forme que la sagesse de Dieu prend dans l'éducation de ses enfants. Voilà. Non, excusez-moi d'avoir dépassé si largement mon temps.